Bonjour à tous, bienvenue sur nos ondes locales et de proximité. Bien sûr, nous sommes toujours ravis de vous retrouver pour cette nouvelle chronique du passé. Bonjour Gilliane.
Bonjour Martine, bonjour à tous. Ces chroniques, nous les préparons avec Rémi, des chroniques de Bresse. De quoi parle-t-on ce mois-ci ?
De voyager sur la Saône en bateau. Il a retrouvé le dernier voyage du bateau, le Parisien numéro 2, il y a tout juste 100 ans, malheureusement, pour aller vers un chantier de démolition. Ce bateau avait sillonné la Saône entre Lyon et Châlons pendant 75 ans.
Nous évoquons cette aventure après avoir écouté quelques notes des Jeux d'eau à la Villa d'Est de Franz Liszt par Anne Kefelek.
Faire une croisière sur la Saône, de plus sur un bateau à vapeur. Allons-y. Et quand l'aventure commence-t-elle ?
Les essais ont été faits avant même la Révolution. Déjà, le premier bateau à vapeur sur la Saône apparaît à Lyon en 1783 et l'essai a été suivi par des milliers de spectateurs. Ce bateau est énorme, il mesure 46 mètres de long. Il est actionné par des roues à aubes et il a été construit par Jouffroy d'Aban. Malheureusement, ce marquis ne reçoit pas de soutien et l'aventure de la navigation à vapeur ne se poursuit pas en France, mais en Amérique.
Pour situer l'invention du marquis Jouffroy d'Aban, on peut rappeler que l'ingénieur Nicolas Cugnot a inventé le premier véhicule automobile avec une chaudière à vapeur en 1769. Bon, on ne reste pas sur l'échec du marquis quand même.
Jouffroy d'Aban lance un nouveau bateau, le Persévérant, en 1816. Mais il est trop lourd et il ne réussit qu'un aller-retour en 1819. Ensuite, la Société des Transports sur la Saône lance un bateau d'une longueur de 27 mètres, le Ville de Châlons, en 1823. Mais il est victime d'une avarie de machine et il cesse son service au bout de quelques semaines seulement.
Des bateaux naviguent ailleurs, mais toujours pas sur la Saône. Conscients du retard de la France dans ce domaine, des propriétaires lyonnais se regroupent et créent la Société anonyme de navigation de la Saône par vapeur à Lyon. C'est le 10 mars 1827, autour d'Edward Church, un Américain de Boston. Cette société est approuvée par une ordonnance royale du 25 avril 1827.
Et si on lit le courrier de l'un, on apprend aussi que, je cite, « Le premier bateau à vapeur sur la Saône, de la société Church, a fait un voyage d'essai le 9 avril. Le trajet de Lyon à Châlons s'est opéré en 15h15. Il a été reconnu qu'il pourra s'effectuer par la suite en moins de 14 heures. Le retour a eu lieu en 8 heures. Toute la population des deux rives de la Saône est restée émerveillée de la rapidité de cette course. La réussite a été complète. Dorénavant, les habitants de Châlons pourront se rendre à la Bourse de Lyon, faire leurs affaires, aller au spectacle et être rendus chez eux le lendemain. La Chalonnaise et la Lyonnaise partent tous les jours, l'une de Lyon, l'autre de Châlons, à 5 heures précises du matin. Les premières places sont au prix de 10 francs et les secondes de 7 francs.
Eh bien voilà, la batellerie existe désormais pour les voyageurs. Avant de continuer, nous pouvons évoquer les particularités de la Saône avec un chenal de faible profondeur.
Elle exige donc des bateaux spécifiques. Et le chantier Schneider, au Creusot et à Chalon-sur-Saône, va bientôt se spécialiser dans les bateaux à vapeur, tant pour les marchandises que pour les voyageurs. La Saône est un élément majeur de l'axe de circulation nord-sud, de la mer du Nord à la Méditerranée. Et depuis toujours, il a été plus avantageux d'utiliser la voie d'eau que les voies terrestres. De plus, Chalon-sur-Saône est un point de convergence de multiples axes et donc un port important, parfois même appelé le port de la France de l'intérieur.
Les bateaux à vapeur sont désormais une institution pour le transport des voyageurs où des compagnies se disputent le marché. Elles sont quatre en 1841, trois avec des bateaux voguant sur le Rhône et la Saône et une exerçant uniquement sur la Saône, les messageries royales, dont les bateaux, dénommés les hirondelles, sont les plus rapides. Toutes travaillent à améliorer la vitesse, à diminuer la consommation de charbon et à augmenter le confort des voyageurs. Elles se livrent aussi une guerre des prix et voyager par le bateau-vapeur est accessible à tous.
En 1850, la navigation à vapeur atteint son apogée sur la Saône. On estime que les 17 bateaux transportent chaque jour une moyenne de 1200 voyageurs. Un élément très important est survenu depuis peu. Le 1er septembre 1849, l'arrivée du chemin de fer depuis Dijon, d'abord seulement jusqu'à Chalon-sur-Saône. Tout cela amène un afflux de voyageurs sur les bateaux, car la liaison ferroviaire avec Lyon n'est pas encore réalisée. Le plus illustre est d'ailleurs Louis-Napoléon, qui, descendu du train le 14 août 1850, emprunte le bateau l'Hirondelle.
Le journal de Saône-et-Loire écrit d'ailleurs, et je cite, « Le prince, dans l'impossibilité de s'arrêter partout, faisait ralentir la marche du bateau dans les endroits où les masses étaient les plus compactes et répondait par des gestes gracieux à leurs sympathiques acclamations. La liaison ferroviaire de Paris à Chalon est terminée le 22 juin 1851, alors qu'une nouvelle compagnie de bateaux s'est installée sur la Saône.
La compagnie des bateaux parisiens, qui s'annonce par une publicité. Tous les jours pairs, à compter du 16 mars 1850, un bateau parisien partira de Lyon à 7h30 pour Chalon, avec, je cite, « une grande baisse des prix, une vitesse extraordinaire, une bibliothèque gratuite et un restaurant confortable à des prix modérés. » La publicité ajoute « Il y aura un départ tous les jours, aussitôt que la construction du second bateau de la compagnie sera achevée. »
Ce second bateau, le Parisien numéro 2, sera le fleuron de la navigation sur la Saône. Avec ses 67 mètres, il est plus long que les 48 mètres de l'hirondelle numéro 5 ou les 50 mètres du cygne, de l'aigle numéro 3 ou du papin numéro 4. Sa largeur n'est que de 3,90 m contre 4,50 m ou 4,80 m à ses concurrents. Il peut transporter 400 voyageurs et il descend de Chalon à Lyon en 5h30 contre 6 heures pour l'aigle numéro 4.
La concurrence est rude et pas toujours loyale. Les archives de Saône-et-Loire ont relevé une plainte. Je cite « Le propriétaire du bateau à vapeur L'Aiglon, faisant un service de voyageurs de Lyon à Mâcon, se plaint de ce que les bateaux, les Parisiens, gênent par tous les moyens possibles la marche de son bateau et se livrent même parfois pour atteindre ce but à des manœuvres pouvant causer des accidents sérieux de nature à compromettre la vie des voyageurs. Cette période faste pour les bateaux à vapeur est de courte durée, car le chemin de fer atteint et traverse Lyon à l'automne 1856. Et l'année suivante, plusieurs compagnies fusionnent pour créer le PLM, la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
Le chemin de fer est moins soumis aux aléas climatiques que les bateaux qui ne peuvent pas naviguer lorsque la Saône est trop haute, trop basse ou prise par les glaces, lors des hivers rigoureux, bien plus fréquents qu'aujourd'hui. Certaines interruptions peuvent durer un mois.
Alors, face à la nouvelle concurrence, les bateaux à vapeur de la Saône sont délaissés par les voyageurs. La plupart cessent leur activité durant les années 1850. Mais la Saône est toujours utilisée pour le transport des marchandises. Seule la compagnie des bateaux parisiens résiste, en transportant des voyageurs peu pressés et aussi des denrées. Ces bateaux n'effectuent plus que 3 allers-retours hebdomadaires en partant de Lyon à 7 heures les lundis, mercredis et vendredis, et de Chalon à 7 heures les mardis, jeudis et samedis.
Malgré ou grâce à leur charme désuet, les bateaux parisiens continuent leur service avec une certaine régularité, sans beaucoup d'incidents, jusqu'au 2 décembre 1886. Le Parisien numéro 2 quitte le ponton de Lyon-Vaise sous un beau soleil lorsque, subitement, il est enveloppé d'un épais brouillard. Le pilote aperçoit alors un remorqueur. Il manœuvre pour l'éviter et envoie son bateau contre les enrochements d'une pile d'un pont. Une voie d'eau s'ouvre dans la coque. Le bateau, qui transporte une 50aine de personnes et de marchandises, s'enfonce dans les eaux. Heureusement avec lenteur. Et tous les passagers peuvent être évacués. Le naufrage ne fait aucune victime. Le bateau va ainsi rester 75 jours dans la Saône avant d'être renfloué.
L'année 1912 est une mauvaise année pour le Parisien numéro 2, qui, en mars, heurte les échafaudages d'un pont en construction à Chalon. Un incident plus spectaculaire que grave. Puis, le 12 novembre, il heurte la pile d'un pont lyonnais. Le naufrage ne fait pas de victimes, mais le bateau n'est renfloué qu'au printemps suivant.
Connaît-on l'importance de leur trafic ?
En un demi-siècle, le trafic a diminué de 3/4. Le chalonnais Louis Bonamour, qui connaît bien la Saône sous tous ses aspects, indique que les Parisiens ont transporté environ 24 000 passagers en 1898 et des marchandises pour les besoins des riverains.
Nos collègues des chroniques de Bresse, Claude et Rémy, ont-ils trouvé d'autres informations ?
La compagnie des bateaux parisiens est une entreprise privée et les historiens qui se sont intéressés à eux n'ont pas retrouvé les archives. Claude et Rémy ont donc consulté la presse lyonnaise disponible en ligne et ont retrouvé la date précise du naufrage du Parisien numéro 1 et quelques autres faits comme une liaison fluviale assurée par les Parisiens entre Aix-les-Bains et Lyon, au moins pendant les étés de la fin du XIXe siècle. D'autres éléments restent à préciser.
Ces Parisiens survivent-ils à la Première Guerre mondiale ?
Eh oui, en effet. Cela surprend car, comme toutes les entreprises, ils ont subi les restrictions de charbon. Et comme la presse locale était aussi très restreinte par le manque de papier, nous n'avons pas d'écho. Mais les Parisiens reprennent bien leur service après-guerre.
Jusqu'à quand ?
Leur retrait s'est fait discrètement, sans écho. L'entreprise a été rachetée par celle de Le Havre, Paris, Lyon et Marseille. Les Parisiens ont cessé de naviguer au plus tard au début de l'année 1923, car en février 1923, le courrier de l'Ain indique qu'ils ont été rachetés pour être démolis et que leur service est supprimé.
Une épopée du temps passé se termine ainsi. Sur le site des Chroniques de Bresse, nos auditeurs peuvent retrouver l'évocation d'un voyage effectué en 1892 sur le Parisien, entre Chalon et Lyon. Nous remercions nos collaborateurs et Jimmy et la technique. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre chronique du passé. Et pour accompagner le naufrage du Parisien numéro 1, laissons-nous porter par la musique du film Titanic. Au revoir à tous.